Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile se couvre de neige comme les paysages russes des deux films au programme, Une femme douce et Faute d'amour. Quant aux yeux et aux voix, ce sont ceux de Marie, Occitane et bien sûr Anastasia qui se joignent au mien pour ce voyage. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Bonjour Amy.
Bonjour.
Et en fin d'émission, nous retrouvons Pierre d'abord pour une nouvelle chronique Cérévore qui cette fois sera consacrée à Rick et Morty. Ensuite, on fera quelques suggestions des sorties ciné cette semaine et il ne manque pas. Mais tout d'abord, on commence par Une femme douce de Sergei Loznitsa.
Alors Une femme douce, le film commence lorsqu'une femme, dont on ne connaîtra pas le nom, reçoit un colis qu'elle avait expédié à son mari incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis. Inquiète, elle se met en route vers la prison, et ce voyage qui tourne vite à l'absurde quasi cauchemardesque donne lieu à une succession de rencontres et de scènes hautes en couleur et profondément métaphoriques, où cette femme désespérée se heurtera toujours plus à l'inertie d'une administration kafkaïenne et à l'apathie de ses semblables. Alors, le résumé laisse encore plein de possibilités. Je vais peut-être commencer par vous demander votre avis sur ce film, Anastasia, Marie.
Pour moi, c'est un film... Il n'est pas beaucoup plus simple que celui-ci, le roman, le récit auquel Loznitsa fait référence. C'est un récit de Dostoïevski qui s'appelle Une femme douce, dans la traduction. Même s'il reprend vraiment, surtout en russe, il reprend littéralement le titre du récit, il n'y a pas énormément de points en commun. Genre, ça diffère en fait beaucoup. Mais je trouve que le film, j'ai beaucoup aimé le film, ça me donnait un grand moudre parce que j'ai relu le récit de Dostoïevski et c'est un film qui nous fait marcher le cerveau en fait. Et parce qu'à part le travail cinématographique que j'ai trouvé très très réussi, il y a aussi des choses qu'on va discuter et dans quelques instants.
Marie.
Oui, alors moi je connais pas le texte de Dostoïevski, mais en effet c'est un film qui fait marcher le cerveau. En tout cas c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a même fascinée, je dois dire. Et oui, j'y pense encore, même si ça fait bien une semaine que
il y a vraiment quelque chose de très très fascinant à ce film, à cette histoire. Alors on reparlera d'un petit peu ce côté très très baroque de ce cinéma et ce personnage extrêmement austère dans un univers complètement baroque en fait, et ce décalage total qui crée un malaise, mais un malaise très jubilatoire. C'est vraiment un film sur lequel on pense longtemps après l'avoir vu, parce qu'il est d'une extrême richesse dans tous les messages qu'il peut transmettre. Et tous ces messages, toute cette diversité des messages, elle passe d'abord par la diversité de personnages. Je parlais d'une galerie de portraits. Alors d'abord, il y a le personnage principal, cette femme douce qui est quand même pas si douce que ça.
Non, pas vraiment.
Son visage complètement fermé.
Un point commun avec le récit de Dostoïevski.
Mais toute la galerie de personnages qui crée vraiment une surprise permanente. Une espèce de suspense où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore voir apparaître? Et là, dans la bande-annonce, il cite un journal qui dit que le film est à cheval entre Dostoïevski et Fellini, et c'est vraiment exactement ça. On a tous ces personnages bariolés du grand roman russe qui ont toutes leurs failles et leurs grotesques internes. Et à côté de ça, justement, le côté... parfois, c'est vraiment un petit peu du cirque. Alors, on parlera de la scène finale,
ouais,
forcément. Mais il y a vraiment un côté cabinet de curiosité. Et ce qui est fort, c'est que ces personnages sont... tous issus de l'expérience de documentariste du réalisateur, et que c'est des personnages réels dont on a juste grossi le trait. Et je trouve ça, c'est pour ça qu'ils sont peut-être si pertinents en fait.
C'est si pertinent et c'est effrayant en même temps, parce que moi j'étais genre oui, je reconnais la réalité de mon pays. Il y a des choses que je reconnais. Donc, vraiment, c'est... Ben, je sais que ça existe, mais quand tu le vois d'une manière si grotesque, comme tu avais dit, ça fait vraiment peur. Et t'as vraiment, c'est comme chez Kafka, tu as peur d'être amené dans cette réalité qui te... Comme, je sais pas, c'est en éponge qui te fait rester là-bas. Je sais pas, c'est incroyable. Et parlant des personnages, oui, justement, c'était très, très juste. Finalement, la femme, une femme douce, elle n'est pas si douce que ça. Et je sais pas à quel point c'est le personnage qui relie tout le film. Parce que, comme tu avais dit, la galerie des personnages, c'était présenté d'une manière incroyable, incroyable, mais je pense que c'est aussi, c'est une femme douce et forte en même temps qui fait le fil conductrice de tout le film.
Oui, et puis justement, ce mutisme et ce baroque, c'est assez fascinant la façon dont ils s'entretiennent et ils se mettent en valeur l'un l'autre. Parce que je crois que j'ai jamais vu un personnage aussi mutique pour lequel on a tant d'empathie, on a vraiment peur pour elle, on la suit dans ce... dans ce parcours de rencontre en rencontre. Et le fait qu'elle soit si froide ou si... Enfin, pas vraiment même. Je sais même pas si elle est froide, mais en tout cas
un
mutique.
Un peu amorphe, même.
Un peu amorphe. Hein. Pourtant, elle a l'air de subir, mais c'est son mutisme. C'est presque sa seule force de résistance. Et à côté de tous ces personnages en couleur, de tout ce qui lui arrive, ça met encore plus en valeur la tragédie de la situation, en fait. Et le fait qu'elle ait même pas... elle essaie même pas de parler, en fait. Elle sait que ça sert à rien. Et c'est assez frappant. Et tu parlais aussi, Rémi, de l'expérience de documentariste. Et c'est vrai que c'est assez frappant dès les premières images. Je trouve que c'est un film qui est nourri de plein d'influences, même de plein que je ne dois même pas percevoir. C'est assez fascinant. Au niveau de l'image, on a... oui, au début, on se demande si ça va pas être un peu un film social, sur un quotidien russe, quelque chose de très descriptif. Très vite, on se rend compte que non. On dit, mais ça nous perd à chaque fois. Au bout d'un moment, on se laisse emporter. On cherche plus à comprendre vers où on va être amené, parce que c'est juste un jubilatoire même de se laisser emporter dans ce...
Oui, ce scénario a vraiment une espèce de puissance évocatrice qui est quand même très très forte, avec ce microcosme, cette ville qui tourne autour de la prison dans laquelle elle se retrouve précipitée, une espèce de petit monde désespéré et désespérant, quand on voit comment ça fonctionne, où justement chaque personnage porte son malaise sur lui à fleur de peau. Et on a finalement une série de scènes qui sont très très banales, et qui sont des scènes qui pourraient être des scènes du quotidien, mais le petit grotesque en plus fait que d'un coup elles sont investies d'une puissance allégorique impressionnante, et d'un coup tout ce matériau fait complètement sens, le sens est extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'on a vraiment un portrait d'une Russie écrasée par une autorité absurde, kafkaïenne, vraiment, qu'on ne voit pas, et ces personnages qui évoluent à ras de terre dans le mince interstice de liberté qu'ils ont, et qui est la liberté d'aller mal, quelque part.
Mais justement, c'est pour ça, en fait, c'est toute une réalité, en fait, qui construit à partir de cette nuire de la prison. Mais en fait, je dirais pas que ce sont des personnages tragiques, à part le personnage principal. Tous les autres personnages, ils se trouvent très bien dans cette société, ils savent faire leur truc, ils savent vivre, ils savent comment, où il faut aller et qui il faut demander, ils savent comment ça se passe pour que tout bouge, en fait. Ce qui devient effrayant, c'est qu'il n'y a pas de personnages qui... Et ce qui devient justement effrayant dans ce grotesque, il n'y a pas de personnages qui veulent fuir, en fait. À part, voilà, il y a une femme douce qui reste là et qui n'ose pas parler parce qu'elle sait que finalement ça ne va pas trop changer. Il n'y a pas vraiment de lutte, c'est ce qui est effrayant. Et c'est juste, c'est l'habitude. Et je pense que là, c'est vraiment la critique pour la société russe qui a vécu... l'époque soviétique, où on dit souvent que chaque troisième habitant de la Russie a fait de la prison à un moment donné, parce que c'était une époque de la prison, quoi. Il y avait plein de gens qui étaient emprisonnés. Mais justement, le problème, c'est que on veut pas le changer. On s'est habitué à ce qui est arrivé, et la société essaie d'évoluer dans cette même situation.
Et alors, ça fait un certain nombre de fois que vous dites toutes les deux que vous parlez de peur et d'effroi. Et
mais il y a aussi de l'ironie.
C'est aussi le mot qui m'est venu immédiatement à l'esprit, parce qu'en en fait, il y a quand même vraiment un suspense dans le scénario, et on a peur pour ce personnage. Ouais. Et ça, je trouve que ça passe d'une façon assez formidable par l'esthétique du film. C'est vraiment une espèce de beauté inquiétante. Bah, encore une fois, comme chez Dostoïevski, on imagine bien ces espèces de clair-obscurs. Déjà, c'est plan séquence souvent assez long avec des cadres très très fermés, un peu oppressants, les couleurs qui font penser à des tableaux, et puis surtout j'ai remarqué une bande sonore extrêmement fournie. Il y a toujours des bruits en arrière-plan qui donnent cette impression de réalisme, mais aussi cette impression d'oppression justement, et qui font un petit peu penser à un cauchemar. Je sais pas ce que vous en pensez, et puis je pense qu'on pourra finir sur le mot cauchemar qui est quand même assez central dans le film.
Le mot cauchemar en effet résonne pas mal quand on sort de la salle, mais c'est vrai que c'est une image assez foisonnante. J'ai encore en tête des plans remplis de visages, même dans ces images de bus ou de salles d'attente. C'est grouillant presque de personnages, mais on n'a pas envie de dire d'humanité. Enfin, c'est des personnages, il y a une galerie de personnages.
C'est un peu le cafard kafkaïen.
Voilà, c'est presque pas des êtres humains, c'est des rouages en fait. Ils ont tous leur rôle défini, même celui qui va venir se plaindre tous les jours. En fait, il fera la même chose toute sa vie. Ouais. Et on a l'impression que ça peut être une mécanique huilée, et même elle essaye. Elle tente de résister un petit peu, mais en fait, c'est complètement. Enfin, on sait déjà que ça serait inutile. Et même elle n'a pas forcément l'air d'y croire. Enfin, c'est assez étonnant. Enfin, c'est assez, prenant surtout. Et redire la photographie quand même incroyable. Vraiment, de début à la fin,
c'est magnifique.
C'est magnifique, mais vraiment, c'est incroyable.
Et bien alors, justement, on parle de la fin. Alors, on ne va pas vous dévoiler la scène finale dans sa totalité, mais je pense qu'on peut quand même en dire quelques mots. Une scène finale qui dure facilement une demi-heure ou 20-25 minutes, quoi. Où là, par contre, on part dans le Fellini, mais alors totalement, avec... une scène de cauchemar, mais on ne saura jamais vraiment si c'est un cauchemar ou pas. En tout cas, là aussi, une puissance allégorique folle où le cauchemar s'emballe et d'un coup, la société s'affiche dans toute son hypocrisie. Dans toute sa méchanceté aussi. Je ne sais pas à quel point on peut en dire plus, mais c'est vraiment ce retournement du film qui a été très décrié par la critique et que je trouve absolument génial pour ma part, qui nous amène dans un niveau de signification, mais aussi un niveau de critique complètement supérieur, et on est un peu terrassé par les images, par ce qu'on voit. On termine sur une dernière image où on revient sur Terre, et que se passe-t-il ? Tout le monde dort. Je pense que le constat politique est sans appel.
Oui, non, si on avait encore un doute, il ne sauve personne. Je veux dire, personne n'est sauvé dans le film.
La question, c'est où est le cauchemar, en fait ? Est-ce que c'est dans les rêves ou c'est dans la réalité ? Et comme tu avais dit, Marie, ça se répète tous les jours. Et ça, c'est aussi le cauchemar, qu'il n'y a pas de sortie.
Il n'y a pas d'échappatoire, exactement.
En univers kafkaïen, ouais.
Voilà, donc Une femme douce de Sergueï Losnitsyn. Si avec ça, on ne vous a pas donné envie de le voir, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors profitez-en, chers auditeurs, il ne sera plus en salle pour très très longtemps.
Le deuxième film de cette émission est russe lui aussi et n'est pas beaucoup plus positif. Il s'agit donc de Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev, déjà remarqué avec Yelena en 2012 et Léviathan en 2014.
Oui Anastasia, et Faute d'amour, c'est l'histoire forcément allégorique d'un enfant perdu. Un enfant qui comprend que ses parents bientôt divorcés ne l'aiment pas et cherchent à s'en débarrasser dans quelque internat, pour pouvoir partir chacun de son côté, refaire sa vie ou ce qu'il en reste. Alors le jeune garçon s'enfuit et disparaît. Le film va suivre les recherches menées par ses parents, aidées par des bénévoles, et leur terrible descente dans un abîme de rancœur et d'espoir perdu. Ça commence pas de façon très joyeuse avec le résumé, mais peut-être serez-vous euphorique dans vos avis sur ce film, alors je vous le demande tout de suite.
Et moi j'ai beaucoup aimé le film, je serais très brièvement dit. J'ai beaucoup aimé et j'ai préféré à ces deux films précédents qu'on a cités. Et je pense que celui-ci, c'est vraiment une réussite particulière. Il a atteint encore une hauteur dans son œuvre.
Occitane.
Ben moi aussi, j'ai bien aimé ce film, même si paradoxalement, j'ai eu l'impression d'être un petit peu de marbre à la fin. J'ai pas ressenti une émotion absolument... Je me suis pas sentie terrassée par l'émotion de ce film, mais peut-être que c'était un peu le but. Il m'a semblé qu'il y avait quand même beaucoup de... C'était quand même un film qui était sur l'incertitude. On ne sait pas trop comment on se sent vis-à-vis de cette histoire, de cette mise en scène aussi, parce que c'est un film assez sombre, avec une sous-exposition qui traverse tout le film en termes simplement d'image et tout ça. Et il m'a semblé que du coup, ça maintenait le spectateur dans cette espèce de, d'entre-deux perpétuel vis-à-vis de cette situation. Voilà, et que, du coup, l'émotion n'est pas aussi évidente que ça à saisir. Voilà.
Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi avec cette je sais pas même pas si c'est une réserve mais cette idée que le fait enfin j'ai eu l'impression que les personnages étaient condamnés dès le début enfin je pensais pas qu'une impression et j'aurais aimé peut-être le ressentir un peu moins fort ou un peu moins vite avoir moins l'impression tout de suite que c'était déjà plié mais c'était aussi peut-être le but.
Oui, en fait, bah, ce que vous dites, surtout Occitane et Marie, ça me fait dire que le film réussit complètement parce que effectivement, s'il arrive jusqu'à nous voler notre émotion après avoir volé celle des personnages irrémédiablement, c'est que quelque chose fonctionne. Et en ça, la mise en scène de Diaghilev, bon, j'avais vu que Léviathan, mais où là, le déchaînement d'émotions est beaucoup plus violent à la fin, en effet. Mais on retrouve bah, alors, cette sous-exposition dont tu parles et cette photo toujours aussi splendide, mais on en reparlera. Et puis voilà, une espèce d'acuité ça, qui... On sent que ça touche quelque chose quand même d'assez essentiel et qui réussit à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est vraiment, vraiment puissant et c'est vraiment cruel, je trouve. Alors, tu le disais, Marie, je pense, entre autres, à cette première partie où le père et la mère tentent d'être heureux et vont payer le prix de cette seule volonté égoïste d'être un peu heureux après avoir été malheureux pendant des années. Le bonheur est de toute façon égoïste, il est coupable, c'est un peu le présupposé assez violent du film, et ce qui est d'autant plus violent, et qui t'a peut-être gêné Marie justement, c'est que, étant donné que nous savons depuis le début que l'enfant s'est enfui pendant qu'ils essaient d'être heureux, on est complice, mais de l'accusation qui est portée sur les personnages dès le début. Et le réalisateur nous force vraiment, avec cette caméra très très tyrannique, à être complice d'une accusation extrêmement lourde portée sur ces personnages. Et en ça, c'est vrai que c'est un petit peu malaisant, mais qu'est-ce que ça marche bien.
Puis il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui paraît être en gestation dans l'image, toujours quelque chose qui est au fond du plan, dans cette obscurité, ou alors tout simplement dans le ventre de ces femmes enceintes, parce qu'on en voit deux dans le film, où on se dit que ça va être éternellement cette même tragédie qui va se rejouer sans cesse, et qui est perpétuellement dissimulée quelque part dans le cadre, en fait. Bah, notamment la disparition de l'enfant, tout simplement, qui devient cette espèce de hors-champ absolu, et qui est tout le temps là, sans l'être, parce que finalement, l'acteur, on le voit à quoi 5 minutes, 10 minutes à l'échelle du film, enfin en temps de présence à l'écran, mais finalement il devient cette espèce de hors-champ absolu, tandis qu'il y a des tas de choses cachées au fond du cadre, dissimulées dans le fond et même au cœur de ce cadre, et qui demandent juste à surgir, mais jamais ce qu'on espère, c'est-à-dire l'enfant. Et c'est d'autant plus criant dans la scène du cadavre à la morgue, où il tente de reconnaître cet enfant, et finalement il ne supporte pas la vue, et ça ne servit à rien.
Mais moi, je voulais juste revenir sur tes mots pour l'accusation. Moi, je ne le ressens pas comme l'accusation, mais plutôt comme le regret. Parce que finalement justement, grâce au fait qu'on voit que la tragédie se répète et qu'on voit le père qui pose son enfant et qui s'en fout absolument, voilà, et on voit que bah, la nouvelle famille, ça ne change rien. Justement, c'est le regret qui est créé par ce film et par leur titre. C'est juste que je voulais juste préciser, faute d'amour, c'est une traduction très très bonne, parce qu'on a à la fois faute comme erreur et l'absence d'amour, mais le titre russe, c'est plutôt non-amour, en fait. C'est pas la haine non plus, mais c'est l'opposé à l'amour. Et c'est-à-dire que c'est la situation constante de non-amour. Et c'est en détail, mais c'est justement ça. C'est le regret que, par le biais de l'histoire de cette famille, par le biais des médias qui sont tout le temps là, qu'on voit la situation politique, qui a la guerre. Je pense pas que ça soit vraiment un film.
Et puis on est en 2012, les médias annoncent la fin du monde.
Bah oui, justement, c'est absolument. Il regrette que. Ben, en fait, c'est moi j'ai ressenti plutôt les sentiments du réalisateur. Qui nous présente, regardez, on vit comme ça, il n'y a pas d'amour vraiment, oui. Et c'est partout, c'est pas que dans cette famille-là.
Oui, je pense que c'est un petit peu le propos du film. Mais alors, cet égoïsme coupable qui s'installe et qui, alors, soit tue l'amour, soit s'installe parce que l'amour n'est plus là. Il y a une espèce de généalogie qui, elle aussi, reste toujours en hors-champ. Hein. On se fera son idée soi-même sur comment cette situation est arrivée, mais elle est là. Et cet égoïsme qui s'exprime un peu partout, il y a ces écrans un petit peu que les gens regardent, qui sont un petit peu la seule lumière qui se pose sur leur visage, ces corps aussi qui sont étriqués, qui sont enfermés dans des costumes, dans ce salon de beauté où travaille la mère, oui, des corps qui sont toujours dans le paraître d'une certaine façon, qui, y compris dans l'acte sexuel, sont toujours un petit peu dans la possession de l'autre et jamais réellement dans un amour authentique. C'est pas pour rien que c'est une histoire d'enfance perdue, ce film, y compris chez les personnages secondaires. Je pense à la vieille grand-mère qui est complètement recluse.
Puis c'est très intéressant parce que le prénom Alyosha a été popularisé d'abord par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Et en fait, c'est le personnage d'Alyosha, eh bien, il décide de renoncer à la religion pour la religion de l'amour, véritablement. Il décide de s'enfuir à un moment donné, justement, par amour. Et pour il a un désir de cet amour actif. Enfin, à un moment, il le dit. Et là, c'est vraiment ce que fait cet enfant, à défaut d'avoir cet amour... cet amour actif, cet amour qu'on lui donne et qu'il peut rendre en retour, eh bien, il décide de disparaître, tout simplement. Et c'est ce que dit le nouvel amant de la mère. Il dit, mais on peut pas vivre sans amour. Et c'est vrai, il disparaît et c'est tout. Parce que dans le retour, à un moment donné, la mère, quand le père revient, le retour de Zvagintsev, elle dit, il est revenu, c'est tout. Et là, c'est en fait, il a disparu et c'est tout.
Oui, c'est vraiment ce manque d'amour. En fait, ce film, c'est une démonstration du manque d'amour, du désastre même que ça peut provoquer. Et en ça, je trouve que c'est évidemment c'est extrêmement réussi, mais c'est ça qui m'a un peu... Je sais pas si c'est vraiment gêné, mais une fois qu'on le comprend, on le comprend très vite, parce que ça s'insinue absolument dans tous les plans. Tu disais, Occitane, on voit, il n'y a jamais aucune échappatoire, même, je repense, un des tout premiers plans, on voit le visage de l'enfant avec la grille de l'école derrière, voilà, derrière lui, c'est grillé, c'est grillagé, je veux dire, c'est bloqué, c'est bouché. On voit toujours les fenêtres, l'extérieur à travers. Justement, on voit ces fenêtres, ces gouttes d'eau, on voit jamais plus loin que la vitre. Et j'ai trouvé que voilà, c'était posé dès le début et c'était une démonstration brillante. Mais du coup, les personnages, peut-être, je sais pas si on peut dire manquer de nuances, parce que c'est. C'est encore une fois, c'est ça, enfin, je veux dire, c'est ce qu'il a voulu faire. Mais à un moment, j'ai trouvé quand même un petit peu long et je me disais, ils évoluent pas. J'étais un petit peu gênée par ça, même si j'ai trouvé ça brillamment exécuté.
Alors, les personnages te gênent, mais tu parlais de toutes ces grilles, de tous ces espaces. Je pense que ça serait peut-être bien de finir aussi par la géographie de ce film, entre guillemets, parce que Zvagintsev s'attache quand même toujours énormément au cadre dans lequel son film se passe. On se souvient déjà de Léviathan, ceux qui ont ne serait-ce que l'affiche en tête doivent voir à peu près de quoi je parle. Là, on a vraiment cette alternance entre des ruines et des intérieurs complètement aseptisés, mais en tout cas aucun endroit où on aurait vraiment envie de vivre. Il y a plus vraiment de vie, il y a ce bleu de l'image qui contamine les lieux, et puis cette impression que il y a ou des endroits qui sont trop vides ou des endroits qui sont trop pleins, mais vraiment une géographie, des espaces eux-mêmes qui deviennent assez invivables, à l'exception peut-être de cette neige complètement blanche qui a quelque chose d'une neige originelle qu'on voit au début et à la fin, mais qui est, qui est celle de l'enfance absente, quoi.
Ou à l'exception de la chambre d'Alyosha au début, que sa mère exige qu'il range au moment de la visite de l'agent immobilier. Et finalement, donc, il refuse de la ranger et à la fin, on voit des ouvriers qui détruisent et qui arrachent ses posters.
Terrible scène.
Et c'était le seul endroit qui paraissait habité d'une vie...
Une scène qui rappelle encore une fois la scène finale de Léviathan d'ailleurs, on se souvient tous de ces tractopelles qui détruisaient la maison, mais et là aussi je pense que c'est quelque chose de très très fort, enfin symboliquement on détruit la chambre, la maison, l'endroit où l'on vit réellement, pour laisser plus qu'un espace nu et ces appartements modernes et abominables où les deux ex-époux vont, on a l'impression qu'ils vont finir leur vie, mais est-ce que c'est encore une vie s'ils ont perdu l'amour?
Justement, ça devient comme ça, un cercle vicieux, en fait, avec toutes les questions des générations. On ne sait pas d'où ça vient et où ça va arriver. Et en fait, je pense que ça, c'était un peu... le réalisateur a voulu nous prévenir et il faut faire attention, il faut qu'on regarde... dans le miroir qu'il nous présente comme ça, si à un moment donné on ne se trouve pas dans cette situation où il n'y a plus d'amour.
Bon, eh bien, je crois qu'on est à peu près d'accord. Alors, Marie, de léger bémol, mais malgré tout, on va conseiller à nos auditeurs d'aller le voir.
Oui, quand même.
Eh bien, allez-y donc, chers auditeurs. Ça s'appelle Faute d'amour. C'est réalisé par Andrei Diaghintsev. Et c'est encore en salle, y compris chez nos partenaires des Cinémas Lumière.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
Well, my days of not taking you seriously are certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated. Office.
Winter is coming.
Et on continue comme promis avec une nouvelle chronique sérivore. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Eh bien, cette semaine, je ne vais pas parler d'une série, mais seulement d'un épisode, et encore pas n'importe lequel. En effet, ce sera The Recklantis Mix-Up ou Tales from the Citadel, l'épisode 7 de la saison 3 de Rick et Morty, sorti il y a à peine une semaine, le dimanche 10 septembre. Alors pourquoi je vais vous parler d'un épisode plutôt que de parler d'une série complète ? Eh bien, tout simplement parce que pour l'instant, c'est peut-être le meilleur épisode de n'importe quelle série que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, dans toutes les séries, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons épisodes, des moments qui vous laissent une impression, des épisodes qui vous restent en tête, où il s'est passé quelques événements marquants. Il y a aussi des scènes qui sont fortes, qu'on peut retrouver, etc. Par exemple, dans le dernier épisode de Game of Thrones, qui est certes très long, 1h20 au compteur, il y a quelques scènes qui sont très fortes, quelques scènes qui durent malheureusement pas plus de quelques minutes sur 80 minutes. Je vous fais faire le calcul, vous verrez que c'est pas beaucoup, pourtant pour une série qui est très appréciée. Des amateurs de mauvaises séries sur internet et bref, je m'emporte totalement. Alors, pourquoi je vais parler de cet épisode ? Eh bien, tout simplement parce que des scènes fortes, des moments cool, etc., ça montre une maîtrise du spectacle, comme on peut voir dans Game of Thrones. Ça, bien sûr, je vais bâcher Game of Thrones assez souvent. Je n'ai pas trop aimé la dernière saison. Mais dans le cas de Rick et Morty, eh bien, c'est un épisode parfait, c'est-à-dire un épisode qui montre une véritable maîtrise de ce que c'est qu'une série et une maîtrise du format choisi, à savoir une série courte de 21 minutes en à peu près une douzaine d'épisodes par saison. Et donc cet épisode, l'épisode 7 de la saison 3 de Rick et Morty, est un exemple parfait de l'épisode parfait. C'est un épisode qui est vraiment complet, complet comme un épisode qui s'inscrit parfaitement dans une saison, mais aussi dans la logique complète de la série qui pour l'instant s'étend sur 3 saisons, pas encore terminée. Les autres épisodes, d'habitude, font simplement avancer l'intrigue par petites touches, mais là, c'est un lent bond. En fait, vous comprendrez très vite en regardant l'épisode, je m'explique. On voit en introduction Rick et Morty qui s'apprêtent à partir en aventure, et arrive tout d'un coup un Rick et son Morty qui viennent demander de l'argent pour réparer la citadelle détruite à l'épisode 1 de la saison 3. Rick refuse tout simplement, et ils décident quand même de partir de leur côté pendant l'aventure. Et bah tout le reste de l'épisode ne parle pas du tout de Rick et Morty. C'est-à-dire que c'est un épisode complet qui ne parle pas des personnages principaux et de leur histoire. L'épisode décide de regarder ailleurs, de construire un monde, construire le monde dans lequel vont évoluer plus tard, ou ont déjà évolué les personnages. Mystère, allez regarder la série. Donc on prend un épisode entier pour développer un fil narratif. Un fil narratif qui n'est pas simple, un fil narratif qui est composé d'autres fils narratifs. En effet, la citadelle est rapidement peinte comme une société ségrégée et dysfonctionnelle, une société nouvelle qui essaye de se reconstruire après la destruction totale de l'épisode 1, où justement les oligarques ont été massacrés par le Rick original. Et du coup, la société de la citadelle essaye de se recomposer, et du coup on voit ses problèmes, on voit aussi ses divergences entre les différents points de vue qu'on peut avoir, notamment un grand conflit entre les Rick et les Morty. Du coup, dans cet épisode, on voit plusieurs histoires avec des personnages qui sont simples à appréhender parce que ce sont des personnages qui jouent sur des stéréotypes, sur des personnages types. Du coup, on reconnaît rapidement les personnages, on s'y attache pas forcément énormément, mais on s'y attache quand même et on les suit dans leur évolution tout au long de seulement 21 minutes, je tiens à le rappeler. Alors dans ces personnages, on a un flic corrompu et son partenaire naïf, on a un travailleur à la chaîne, dénaturé suite à une promotion donnée à quelqu'un d'autre qui n'a absolument rien fait dans l'entreprise, c'est assez rigolo. Un politicien plein d'espoir qui peut renverser l'ordre établi en étant l'outsider qui vient et qui rapporte de la fraîcheur à ce monde, à savoir un morti qui se présente à l'élection de la citadelle. Et enfin, un groupe de jeunes élèves pris dans le système qui s'échappent pour aller faire un vœu quelque part. On ne sait pas trop où, mais ils doivent s'échapper de la citadelle et son cadre très strict. Donc chaque histoire dure à peine quelques minutes lorsqu'on les met bout à bout, mais elles créer vraiment l'univers de cette nouvelle citadelle. Elle lui donne vraiment vie parce qu'on voit plusieurs aspects de cette citadelle tout en déroulant une intrigue sur plusieurs niveaux. En effet, je ne veux rien spoiler, mais tout se rejoint plus ou moins pour donner lieu à un reveal final qui est assez marquant. Et en effet, ce reveal fait avancer toute l'intrigue, l'intrigue générale de la saison complète, en faisant appel à un fil narratif cousu dès la saison 1. Donc c'est quand même extrêmement fort, d'un point de vue scénaristique, de respecter à ce point la continuité, tout en développant un scénario sur 4 histoires, avec seulement 21 minutes au compteur. Donc personnellement, je suis extrêmement impressionné, je trouve que c'est un exemple parfait d'un épisode de série qui est bien mené, bien écrit. Chaque narration est intéressante et dit quelque chose, toujours dans le ton cynique et grinçant de Rick et Morty. Concernant l'aspect technique, j'irai très rapidement dessus, c'est une des plus belles saisons de Rick et Morty, sans aucun doute. De nombreux détails sont présents, les décors sont très travaillés, avec des références assez amusantes à la culture populaire dans pas mal de scènes. Et enfin, bien sûr, la musique, avec cette référence musicale finale délicieuse. Je n'en dis pas plus, hein, je vous laisse aller voir par vous-même. Rick et Morty étant quand même connu pour ses références musicales assez pointues de la part de son créateur. Du coup, il y a vraiment un moment où les spectateurs prennent conscience, le tout accompagné d'une musique qui vous prend aux tripes en vous rappelant le truc de la saison 1. Donc voilà, on pourrait en débattre longuement, mais je ne veux surtout pas spoiler, je vous invite à regarder cet épisode dans les plus brefs délais, c'est un exemple parfait de l'épisode parfait niveau scénario, dosage et réalisation technique.
Merci beaucoup Pierre, et bien on ira voir cet épisode 7 de la saison 3 si je ne me trompe pas sur les références, et avant de laisser la régie aller tousser en toute liberté, on revient vers vous pour quelques petites suggestions de sortie. Et je commence donc avec la grosse sortie de la semaine dernière, Good Time, des frères Ben et Josh Safdie, film qui nous montre un braquage qui tourne mal. L'un des personnages, Connie, réussit à s'enfuir, mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui, le faire évader. Et c'est une longue nuit sous adrénaline donc, que nous donne à voir les réalisateurs, une nuit dans les bas-fonds de New York qui met en émoi la critique ces derniers jours et dont nous vous parlerons très prochainement. C'est en salle actuellement, entre autres, aux Lumières, Théro.
Et toujours aux Lumières Terreau, où vous avez la possibilité de voir Happy End de Michel Haneke qui passe en avant-première. Il s'agit d'une famille bourgeoise européenne. Le maître autrichien observe désabusé et amusé une famille bourgeoise de Calais où tout le monde veut en finir avec la vie, avec les autres, avec l'amour filial, paternel ou maternel. Une comédie noire très actuelle et dérangeante.
Et c'est ce que nous dit Télérama Anastasia, le film sera présenté en avant-première le 25 septembre aux Lumières Terreau. À l'Institut Lumière maintenant, la rétrospective chef-d'œuvre du 21e siècle bat son plein. Alors vous pourrez voir entre autres, hein, juste une petite sélection, Bright Star de Jane Campion, Memories of Murder de Bong Joon-ho dont on a déjà parlé ici il y a 2 semaines et que vous avez sans doute vu depuis du coup, mais bon, pour les retardataires, il y a des séances de rattrapage. Une deuxième soirée Kill Bill, puisque la première a eu lieu samedi soir, je le sais, j'y étais, j'ai enfin pu le voir. Et vous pourrez donc voir les deux Kill Bill l'un après l'autre jeudi prochain à 19h. Alors, parole de quelqu'un qui s'est toujours pas remis du choc, allez-y si vous n'avez toujours pas vu ça. Enfin, Parle avec elle d'Almodovar parmi beaucoup d'autres films.
Et en parlant de Lumière, Lumière, l'aventure commence, c'est le titre de la collection de films des frères Lumière, commenté par Thierry Frémont, qui va repasser une toute dernière fois à la Fourmi, samedi à 17h20.
Je continue avec Les ailes du désir de Wim Wenders, alors plus du tout d'actualité maintenant. Le chef-d'œuvre de Wim Wenders sera projeté mardi 26 à la Fourmi, et pour un petit résumé, des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout, voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux, aussitôt il devient mortel. C'est un film magnifique sur le désir et puis aussi sur Berlin que nous offre ici Wim Wenders. Je répète, ça sera projeté mardi 26 à la Fourmi, et on termine avec Jean Vigo, Anastasia.
Justement, intégrale Jean Vigo à l'Institut Lumière. Il s'agit de Jean Vigo qui disparaît à l'âge de 29 ans. Il a laissé une empreinte profonde et durable sur les cinéastes de son temps et sur ceux qui lui ont succédé. Il est l'auteur d'une œuvre brève, deux courts-métrages, le moyen-métrage autobiographique Zéro de conduite et le long-métrage L'Atalante, chef-d'œuvre de poésie et de beauté, achevé alors que le cinéaste était mourant. Et on vous rappelle que ces quatre films passent actuellement à l'Institut Lumière, alors n'hésitez pas à en profiter.
Merci beaucoup Anastasia, d'étoiles plein les yeux. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu entendre Occitane Lacurie, Anastasia Kozireva, Marie Blanc, Pierre Lemoyle et Rémi Cerda. À la régie aujourd'hui, Marie Blanc. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine, et puis n'hésitez pas à venir ce soir, ce mercredi 20 à 20h, en salle D2002XF01. Je répète, D2002XF01 pour notre grande réunion de rentrée. Pour tous ceux qui voudraient rejoindre l'émission, on recrute toujours. Voilà, à la semaine prochaine, à ce soir et à très bientôt sur Transistor.